Vous allez écouter un message de l'Église Nouvel Espoir à Ottawa, en Ontario, au Canada. Ce message a pour but votre transformation afin de transformer votre famille, votre ville, votre entourage. L'Église Nouvel Espoir, c'est des vies transformées pour transformer.
Ce matin, on a un invité prédicateur et c'est un privilège pour moi d'introduire Michael Bruguère. Michael vient.
Yes!
Yes! Michael vient d'Impact et je n'ai pas dit, mais Christophe et toute la gang, parce que si je commence à citer les noms, je veux pas faire d'erreur, vient du ministère Impact à Nouvelle Vie. Nouvelle Vie, nous les prêtres, et c'est un privilège parce qu'aujourd'hui, on a un dimanche Impact. So, soyez prêts à être impactés. Ce matin, Michael dessert la jeunesse là-bas, jeune prédicateur, jeune papa bientôt, et met vraiment un cœur, moi je dirais un cœur mûr. Il ne va pas vouloir que je dise ça, mais un cœur mûr. Et en tout cas, recevons Michael Bruguère comme seul l'Église Nouvel Espoir peut le faire.
Je vais tout de suite vous lire un texte. Philippiens 3, 12, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste que Dieu a en Jésus-Christ. Pour nous. Ce matin, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de courir. J'ai envie de courir vers le but. Je me suis réveillé ce matin avec une envie de courir. Pas une course, comment dire. J'ai l'habitude, moi je suis quelqu'un de compétitif. Ma femme dira que je suis borné. Je suis quelqu'un de borné. Elle a raison sans doute. Mais je suis compétitif parce que j'ai tendance à, lorsque je veux courir, ça m'est déjà arrivé, je vous le raconterai plus tard. Mais lorsque je veux courir, je me mets à me dire, par mes propres forces, je vais être capable de courir un marathon comme si je courais un 100 mètres. On est tous capables de courir un 100 mètres. Si on voit notre enfant ou n'importe quoi, on a oublié de mettre le break sur notre auto, on voit la voiture qui part, on va courir après l'auto, c'est sûr, on ne va pas la laisser partir. On est tous capables, peu importe le temps, la distance, peu importe la pluie, la température, n'importe quoi, on va faire un 100 mètres par nos propres forces et on va peut-être se retrouver dans un état plus ou moins en forme à la fin, mais on va pouvoir le faire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Vous me suivez jusque-là, c'est bon. Donc, quand moi je pense à une course, quand j'ai envie de courir, je pense à un homme qui s'appelle Serge Girard, qui est actuellement en train de courir le tour de la planète. Il fait 44 000 km one shot. Il refuse de prendre un jour de repos au milieu de son parcours. 44 000 km, et lorsqu'il arrive face à un océan, il n'a rien trouvé de plus simple à faire que de le faire à la rame. Cet homme a déjà parcouru les 5 continents à pied, à la course. Un petit exemple, il a fait l'Amérique, Los Angeles, New York, one shot, à raison de 90 km par jour en moyenne. C'est quelque chose. Et moi, quand je cours, je ne m'entraîne pas, mais je m'imagine que je suis capable de faire ça, par mes propres forces. Et j'aimerais qu'on puisse le dire ce matin, puis moi j'ai envie de courir. J'ai envie de courir vers le but comme l'apôtre Paul le fait, comme l'apôtre Paul nous le dit. J'ai envie de courir vers ce but. Je crois ne pas être arrivé à la ligne d'arrivée, je crois ne pas avoir atteint la perfection, et je crois ne pas être le seul, je l'espère du moins. Mais j'aimerais vous inviter. Premièrement, j'aimerais vous inviter à une chose. Dites à votre voisin, c'est pas la température qui va m'empêcher de courir ce matin, c'est pour de vrai. On s'est réveillé, il faisait moins 12 000 ce matin, c'était pas drôle. Mais c'est pas ça qui va nous empêcher de courir vers le but. Vous êtes d'accord avec moi? On est ensemble, on est. Je vais vous poser des questions ce matin, je vais vous demander de me répondre parce que laissez-moi pas tout seul, je veux pas courir tout seul. Pasteur Emmanuel, la semaine passée, a parlé de l'Épître aux Romains, nous a répété que l'Épître aux Romains est un monument. C'est un monument de par son contenu théologique, doctrinal, c'est un monument pour nous. L'enseignement qui est apporté par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains est merveilleux, pour de vrai. Quand j'ai été demandé pour prêcher ici, puis qu'Emmanuel m'a demandé de prêcher sur Romains 6, 7 et 8, il y a une chose qui s'est passée en moi, C'était vraiment l'impression. Là, je parle de Serge Girard qui va ramer. Moi, j'ai eu l'impression de commencer à couler. Parce que je commence à lire ces textes et la profondeur de ce qui est enseigné nous pousse à tomber sur nos genoux devant Dieu, nous pousse à tomber devant Dieu, à reconnaître qu'il est grand, à reconnaître sa grandeur, sa perfection, à reconnaître que seul lui peut nous conduire à son image, tout simplement. Donc, quand on parle de l'Épître aux Romains, quand on prêche sur l'Épître aux Romains, quand on lit l'Épître aux Romains, on fait face à un monument, et c'est avec vraiment beaucoup de reconnaissance, puis une conscience de la responsabilité que j'ai et qu'on a ce matin, que je me tiens devant vous, puis je veux vous remercier pour, tout simplement d'être là, de venir à l'Église, malgré la température, malgré le... parfois, le moral, l'envie n'est pas là, mais parfois l'envie est là aussi. Mais vous êtes là, et reconnaissons devant Dieu la grandeur de ce monument qui est devant nous, sa parole qui nous guide, sa parole qui nous conduit. Romains 6, 7 et 8, c'est un monument, comme je vous l'ai dit, c'est un morceau très ample de texte, de contenu, d'enseignement de la part de Paul. Puis je veux vous inviter, là on parle de la vie du croyant ce matin, dans cette portion-là de l'Épître. Et je veux vous inviter, parce que je ne vais pas pouvoir parcourir avec vous tous les textes, il y a énormément de textes que je veux vous partager ce matin, mais je ne vais pas pouvoir tout partager, tout passer ce matin. Puis je veux vous inviter, un disciple, le terme disciple veut littéralement dire élève, étudiant. Donc je vais vous inviter cette semaine, prenez ce temps-là à la maison pour scruter, pour chercher dans la parole, lisez Romains 6, 7 et 8, demandez à Dieu d'éclairer votre cœur sur ces textes, sur ces passages-là, on a besoin de creuser, on a besoin de creuser davantage. Ce n'est pas juste un dimanche matin qui fait une différence dans nos vies, c'est une course. Moi, j'ai envie de courir vers le but et je vous invite à le faire de même, à en faire de même, courir, chercher, creuser. Et avant d'aller plus loin, avant de commencer à lire toutes sortes de tous les passages que je veux vous partager ce matin, tout ce que Dieu a mis sur mon cœur, je veux fixer un cadre avec vous. Parce que Romains 6, 7 et 8 parlent énormément, abondamment de la loi, l'importance de la loi. À tel point, ça va apparaître à l'écran, que la loi apparaît à peu près 74 fois dans l'Épître aux Romains. Tout ça pour dire, c'est 16 chapitres, 74 fois, il est fait mention de la loi de l'Ancien Testament, de la loi de Moïse, de la loi en tant que cadre, en tant que cadre à la volonté de Dieu pour marcher, pour demeurer en lui. Donc je vais vous donner quelques points, quelques cadres qui vont vous permettre de mieux comprendre l'importance de la loi, l'importance qu'elle a pour nous encore aujourd'hui. Parce que beaucoup, on se pose la question, certainement, on donne notre vie à Dieu, mais on entend parler du régime de la loi, du régime de la grâce. Et parfois, on se dit, c'est quoi la loi? Pourquoi la loi? Pourquoi la loi a une importance encore pour moi? Pourquoi l'apôtre Paul en fait tant mention alors que, de l'autre bord, il est en train de dire, la loi n'a plus de force, la loi, le régime de la loi est annulé car le régime de la grâce a pris sa place. Donc, le premier point, la loi a pour but de permettre à Dieu de demeurer au milieu de son peuple. Quand Israël est sorti du pays d'Égypte, ils se sont retrouvés dans le désert, et la loi avait pour but de permettre à Dieu de demeurer au milieu du tabernacle, pouvoir demeurer dans la tente de la rencontre. Dieu utilisait la loi pour permettre au peuple d'Israël de marcher dans sa volonté. Dieu est saint, et son peuple est appelé à se séparer du monde. La loi servait de guide afin de rester dans la volonté, de rester sur la bonne ligne pour suivre Dieu. Ensuite, la loi, l'instauration de la loi et l'application de la loi n'avaient pas pour but d'être perçue comme un moyen ou un nouvel esclavage, si je peux dire ainsi. On va reprendre l'exemple de sortie d'esclavage du pays d'Égypte. Vous êtes depuis 400 ans dans l'esclavage. Vous sortez du pays d'Égypte et là, Dieu instaure un système de loi qui est plus ou moins rigide quand on lit les textes, et on pourrait le voir comme un nouvel esclavage. Souvent, on peut voir la loi comme un nouvel esclavage. Mais quand on regarde toutes les données historiques, toutes les données géographiques qui sont reliées aux lois, nous démontrent que les lois étaient quand même flexibles. Les lois changeaient parfois. Les 10 commandements demeurent, mais les lois de vie, si je peux dire ainsi, changeaient en fonction des situations, changeaient en fonction de ce qui se passait, du lieu dans lequel Israël demeurait. Ces lois nous démontrent que le but de la loi était tout simplement d'être un moyen de gérer la liberté, un moyen de gérer la liberté du peuple, un moyen de pouvoir demeurer libre. Est-ce que vous avez appris à demeurer libre? Est-ce que vous avez appris à gérer votre liberté? C'est ma question pour moi. quand je lisais Romains, est-ce que j'ai appris à gérer ma liberté, à demeurer en liberté? Parce que ça s'apprend. Matthieu 26, 36 à 39 nous dit ça. « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui, lui, est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. » Jésus, par ce passage, est questionné par un pharisien, puis il vient juste nous enseigner que la loi n'a pas pour but de venir nous mettre un nouveau poids sur nous, un esclavage, de venir nous astreindre à quelque chose de compliqué, de difficile. La loi nous permet de découvrir le cœur de Dieu, de gérer notre liberté, de marcher dans sa volonté et de pouvoir marcher sur la distance, sur la durée. Je rappelle, un 100 mètres, on peut tous courir un 100 mètres. Mon message n'est pas compliqué ce matin, vous allez voir, je vais être extrêmement répétitif. Mais parce qu'il y a une importance, il y a quelque chose de particulier que je veux vous partager. Troisième but de la loi n'était pas d'être un moyen dissuasif à faire le mal ou un marqueur de C'est pas simplement un moyen dissuasif à faire le mal. Souvent, on peut voir la loi comme juste pour éviter qu'on puisse recommencer ou pour éviter qu'on je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais le but de la loi était un marqueur de la sainteté de Dieu. Dieu exige une sentence pour le coupable. Dieu est saint. Dieu exige une sentence pour le coupable. Romains 2, 6 nous dit que le pécheur ne sera pas impuni. Chacun va devoir rendre des comptes devant Dieu de ce qu'il a fait, de sa vie, de comment il a géré le temps qui lui était imparti sur terre. Romains 7, versets 7 à 10, on va plus loin. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Donc, saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie et moi, je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait me conduire à la vie m'a conduit à la mort. C'est littéralement ça qui est arrivé pour moi quand je lisais Romains. Je lisais Romains 6, j'étais quand même... Ah. L'impression que vous êtes à la limite de l'eau. Le seul moyen que vous avez de survivre, c'est littéralement de nageouiller, je dirais, à la surface de l'eau. Puis vous avez juste le nez qui... Et c'est vraiment ça que je vivais, là. Puis ma femme me demande, tu prêches sur quoi prochainement? Puis Romains 6, 7, 8. Puis à un moment donné, elle me dit, ben, je l'ai lu. Puis je me suis senti pas mal brassé. Je lui fais, moi, pour vrai, ce que ça a fait en moi, c'est que je me suis dit, OK, je ne suis pas le seul. Puis en reparlant, j'en reparlais avec plein de personnes. Et littéralement, ce que ces passages ont fait pour nous, c'est que pour moi, pour ceux à qui j'en ai parlé, quand on l'a lu, c'est que la loi de Dieu nous amène à tomber sur nos genoux devant Dieu. Littéralement. Le but principal de la loi de Dieu, l'exigence qui est reliée à cette loi, la volonté de Dieu nous amène à tomber devant lui, à reconnaître notre besoin de lui, à reconnaître notre besoin de nous soumettre à sa puissance, nous soumettre à qui il est, nous soumettre à sa royauté. C'est juste ça, le but. Pourquoi 74 fois? C'est parce que l'apôtre Paul voulait nous amener au pied de Dieu, au pied du Seigneur, au pied de Jésus-Christ pour reconnaître qui il est, sa grandeur, sa majesté, sa puissance et la puissance qui est reliée au fait que son Saint-Esprit vive en nous pour nous libérer, pour nous rendre libres. Êtes-vous tombé sur vos genoux déjà devant Dieu? Quand vous lisez sa parole, est-ce que ça vous fait la même chose? On pourra s'en reparler si vous lisez Romains 6, 7, 8 cette semaine. Moi, je crois que vous allez tomber sur vos genoux. Deuxième point dans le cadre que je veux vous partager ce matin, c'est la réalisation de l'œuvre de Jésus à la croix. Il y a une affirmation de Romains 5 qui dit « Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé. » Paul vient simplement nous rappeler l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ. La loi, l'œuvre de Jésus-Christ et la puissance qui est reliée à la grâce de Dieu sont littéralement liées ensemble. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dissocier la loi de la grâce, quelque part. Parce que la loi nous apprend à découvrir la grâce. La loi, le fait de courir par nos propres forces, nous rend compte qu'à force de faire des 100 mètres, puis de baisser les bras à la fin, essouffler, la loi nous apprend qu'on a besoin de Dieu. On a besoin de Dieu pour courir sur la distance, pour courir sur le long terme. Colossiens 2, versets 9 à 15. Puis là, je veux vraiment, je crois que l'appel de Dieu ce matin pour nous est de réaliser profondément ce que Jésus a fait pour nous. Pasteur Emmanuel l'a dit la semaine passée, ce que Jésus a fait, c'est un acte légal. C'est un acte légal, ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité, c'est une assurance, c'est un fait, c'est un fait. Colossiens 2, versets 9 à 15. En effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est aussi en lui que vous avez été circoncis. La circoncision, le terme circoncision, peut être traduit par séparation, séparé. Vous avez été séparé, mis à part. Vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite de la main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez été en effet enseveli avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscité avec lui, en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de vos cœurs, il vous a rendu la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé toutes les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est une assurance. La loi nous amène à reconnaître qui est Dieu, sa grandeur. Et Jésus-Christ nous rappelle que lui a tout accompli. C'est un acte, c'est un fait, c'est quelque chose. On ne peut pas l'éviter. On ne peut pas s'en dérober. On peut pas. Souvent, on prend ça comme en fonction de nos œuvres, de nos actions. Aujourd'hui, je le file, Jésus m'a sauvé. Demain, non. Jésus l'a fait une fois. L'acte a été déchiré. Je vais vous donner un exemple ce matin. Imaginez que vous êtes dans une cour de justice aujourd'hui. On est tous ensemble, vous venez assister à une cour de justice. Le juge est là, les avocats de la défense, les avocats de l'accusation sont là. Vous êtes le coupable. Vous êtes celui qui est comme présumé coupable. Le seul problème, c'est que tout le monde sait que vous êtes coupable. Tous les faits sont là. On vous a pris en photo, on vous a pris en vidéo. Les articles de journaux sont là, il y a 19 témoins qui affirment que vous êtes coupable et que vous méritez la peine capitale. Tout le monde le sait. Votre avocat vous défend, aussi bien qu'il le peut. Au moment du jugement, le juge appelle tout le monde. Vous êtes le coupable, il vous demande de vous lever. Et là, la sentence, la peine capitale va être donnée, tout le monde le sait. Votre avocat, personne ne le sait, mais votre avocat est le fils du juge. Donc, il requiert toute l'attention du juge. Lève la main et demande au juge tout simplement de prendre votre place sur la chaise. C'est littéralement ce que Jésus a fait. Contre toute attente, le juge accepte. Le juge accepte que l'avocat prenne votre place. Et non seulement vous allez être rendu libre, vous allez être rendu libéré de votre sentence. Tout le monde le sait, là, c'est une véritable... c'est presque une parodie. Tout le monde le sait, personne ne croit à ce que le juge est en train de faire, mais l'avocat va prendre la peine capitale à votre place. Mais ce que Jésus a fait va bien au-delà de tout ça. Jésus est notre avocat devant Dieu. Et ce que Jésus a fait va bien au-delà de tout ça parce qu'au moment où il prend votre place sur le siège, sur le banc des accusés, au moment où il va porter votre peine, la peine capitale, le juge vous remet les clés de sa maison. Le juge prend dans sa poche son chéquier sur lequel il a signé, il a pris soin de signer, mettre sa signature sur chacun des chèques. Des chèques en blanc, un chéquier à vie. Et il vous le remet. Il vous donne un accès total à toutes les ressources nécessaires pour marcher libre dans votre nouvelle vie. Mais ce que le juge sait, c'est que la peine capitale, c'est que son fils va aller sur la chaise électrique. Il va porter le prix de vos fautes. C'est une vraie parodie pour certains. Mais pour celui qui l'accepte, laissez-moi vous dire, si vous êtes la personne qui est jugée coupable, pour vous, ce n'est pas une parodie, là. On est en train de vous donner une liberté toute neuve. On est en train de vous donner une nouvelle vie. Et non seulement les clés de la maison, mais aussi toutes les ressources nécessaires pour continuer et demeurer dans cette nouvelle vie. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous le réalisez? Sérieux, parce que moi, quand je lisais ces textes, c'est ça que je réalisais cette semaine. Ça fait plus de 10 ans que je suis chrétien aujourd'hui, et je le réalisais encore aujourd'hui, je le réalisais avec plus de profondeur pour de vrai, que Jésus a tout accompli. Jésus est venu tout accomplir, l'importance de ce qu'il a fait pour nous. Donc, ce qui m'amène, si ce matin on me demandait que dire pour vous convaincre de rester à m'écouter pour les 6 prochaines heures, je dirais certainement qu'à tous ceux qui ont couru, qui ont l'habitude de courir, qui ont l'habitude de courir des 100 mètres par leur propre force, qui sont découragés, qui ont donné leur vie à Christ, mais qui voient que la liberté qui est proposée dans la parole, la puissance qui est reliée à la libération, ne vient pas. Que la puissance qui est reliée à l'autorité que nous avons en Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, la puissance qui nous permet de demeurer libres, on ne l'a pas, puis finalement, on finit par baisser les bras, à relâcher, à utiliser la grâce un peu comme une béquille entre deux séries de chutes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, je dirais tout simplement qu'il y a un espoir, parce que ce que Dieu a fait pour nous, il est simplement venu nous donner les clés, nous donner un chèque en blanc, un chéquier en blanc signé, avec toutes les ressources nécessaires pour marcher avec lui. Mais il faut qu'on le réalise. J'aimerais prier. Seigneur, ce n'est pas juste des mots ce matin, ce n'est pas juste une parole, ce n'est pas juste un discours, ce n'est pas juste, être là pour être là, Seigneur. Je crois que tu as un appel pour nous ce matin. Je crois que tu veux nous révéler quelque chose. Saint-Esprit, je te demande d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos pensées, d'ouvrir nos yeux spirituels, Seigneur, pour qu'on puisse réaliser ce que tu as fait, Seigneur. Je suis bien imparfait, je parle de manière peut-être pas claire, Seigneur, mais je prie que toi, tu viennes dans les cœurs. Je prie que toi, tu viennes faire réaliser à chacun d'entre nous, Seigneur, la puissance qui est reliée à ton sacrifice, la puissance qui vient, qui provient de ta grâce, Seigneur. Que tu puisses transformer les cœurs ce matin, que tu puisses toucher mon cœur aussi ce matin. Seigneur, on a besoin de toi. On veut te demander que ta parole devienne vivante à nos yeux, vivante dans nos cœurs, qu'un feu puisse naître, Seigneur, et que des feux puissent naître autour de nous à partir de ce moment-là, Seigneur. Que ta grâce puisse demeurer au milieu de nous ce matin, que ton esprit puisse faire son œuvre puissamment, puissamment en nous, Seigneur. On a besoin de toi. Et je te demande, Seigneur, au nom de Jésus, manifeste-toi dans nos cœurs ce matin. Amen. Amen. Il y a plus, c'est le titre de mon message, il y a vraiment plus en Jésus-Christ. Il y a vraiment plus que ce qu'on peut imaginer. Il y a plus que juste courir un 100 mètres. Il y a plus que juste courir à notre manière. Il y a plus. La loi nous amène à tomber sur nos genoux. La loi nous amène à réaliser qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Jésus-Christ a payé toutes nos fautes. Il a déchiré l'acte rédigé contre nous. Mais le problème, c'est ce que je vous disais, c'est que parfois, on a tendance à oublier. Il faut apprendre à gérer notre liberté. Il faut apprendre à gérer la manière dont on marche en liberté. Les règles, les lois de Dieu ne sont pas venues pour nous condamner, nous mettre sous un poids, mais elles sont venues pour nous aider à gérer notre liberté. Et moi, je vais vous donner l'exemple. Il y a 11 ans, à peu près maintenant, je me suis converti. Et pendant les premières années, génial, conversion, on surfe sur la vague, c'est fabuleux, tout fonctionne. Je prie pour quelqu'un, il est guéri, c'est fabuleux, c'est génial. Mais en général, ça ne dure pas. En général, ça ne dure pas parce qu'on n'apprend pas à gérer notre liberté. Et personne ne nous dit que la liberté doit être gérée. Personne ne nous dit que la liberté doit être saisie par une réalisation de ce que Dieu a fait pour nous, par une réalisation profonde de son sacrifice pour nous et de son œuvre en nous. Pourtant, la Bible nous le rappelle, le Saint-Esprit habite en nous. Lorsque nous offrons nos cœurs à Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient résider en nous. Et c'est de là que vient cette puissance. Et c'est de ça dont il est question dans Romains 6, 7 et 8. C'est que nous ne sommes pas seuls. On peut courir à notre manière, mais Dieu veut nous apprendre une nouvelle manière de courir. Et c'est ça que ce matin, je crois, est l'appel de Dieu. Dieu nous aime tellement qu'il veut nous apprendre à courir à sa manière. L'apôtre Paul, dans Romains 7, Romains 8, vient nous encourager. Il vient encourager celui qui baisse les bras, celui qui ne sait plus comment marcher, qui ne sait plus comment avancer dans sa marche spirituelle, qui parfois a baissé les bras. Il vient aussi confronter deux types de cœurs qui ne pourront jamais marcher dans la liberté. Il vient confronter celui qui est religieux, qui adopte la loi comme un moyen de parvenir à Dieu, par un système de points, un système de points de mérite, ce que je fais parfois, ce qu'on fait tous parfois. Il vient aussi confronter celui ou celle qui n'est pas sérieux dans son choix de suivre Jésus. Courir sur le long terme demande toute notre attention, demande tout notre mental, si on veut. Courir sur le long terme demande un engagement total à la cause. Et l'apôtre Paul vient confronter celui qui finit par, à cause de toutes sortes de raisons, par s'appuyer sur la grâce comme une béquille pour pouvoir tenir le coup entre deux séries de péchés. Et ce que je crois ce matin, c'est qu'il y a vraiment plus. Je vais vous lire Romains 8, versets 1 à 11. Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. On parlait de la cour, c'est littéralement ça qui s'est passé. Il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons. Non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. En effet, les hommes livrés à eux-mêmes tendent vers ce qui est conforme à l'homme livré à lui-même. Mais ceux qui ont l'Esprit tendent vers ce qui est conforme à l'Esprit. Car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. En effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes ne sauraient plaire à Dieu. Car vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, vous dépendez de l'Esprit. Puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il ne lui appartient pas. Je tiens juste à souligner par rapport à ce passage, si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il ne lui appartient pas, veut juste mentionner, souligner, il n'y a pas de chrétien sans l'Esprit de Dieu. Si parfois vous vous posez la question, est-ce que j'ai vraiment l'Esprit de Dieu en moi ou je ne l'ai pas ? Un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas un chrétien. On ne pourrait pas accepter Jésus dans nos vies sans l'Esprit Saint en nous. Et on enlève déjà tout de suite un poids. Ce passage vient dire ça. Un chrétien qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas un chrétien. Il n'a juste pas accepté Christ dans sa vie. Il n'a juste pas accepté l'œuvre de Dieu dans sa vie. Donc celui ou celle qui peut se poser ces questions-là, je viens vous rassurer ce matin. Ce passage-là veut littéralement dire que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu as l'Esprit de Dieu depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Verset 10. Or, si le Christ est en vous, votre corps mortel reste mortel à cause du péché, mais l'Esprit est source de vie parce que vous avez été déclaré juste. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Est-ce qu'on réalise vraiment ce que Jésus a fait ce matin? Je vais vous poser la question. Est-ce que vous réalisez vraiment ce que Jésus a fait pour vous ce matin? Est-ce que vous réalisez la puissance qui est rattachée à ce sacrifice, à cette œuvre-là? Est-ce que vous la réalisez? Jésus nous a amenés à le réaliser au travers de la loi, au travers de notre vie par nos propres forces, mais il vient aussi nous assurer qu'il y a plus. Par son esprit qui demeure en nous, il y a plus. Il y a plus que tout ça. Il y a plus que juste baisser les bras, courir un 100 mètres, s'essouffler et baisser les bras. Il y a plus. Son esprit vit en nous. Son esprit est en nous. L'esprit nous communique la vie. Ça apparaît à l'écran. L'esprit nous communique la vie de Christ. Vous pourrez lire les versets. C'est dans Romains 8, verset 11. L'esprit nous fait porter du fruit, nous amène à ressembler à Christ. Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. L'Esprit nous amène à nous voir comme des enfants de Dieu. Lorsque le juge nous a déclarés justes, il nous a donné les clés de la maison, il nous a donné un chéquier signé avec soin, avec des chèques en blanc, mais il nous a aussi donné l'accès, quand il nous a donné l'accès à sa maison, c'est littéralement, il a mis notre nom sur la porte. On fait partie de ses enfants, on fait partie de sa famille, on fait partie de ceux qui lui appartiennent. Notre identité est à lui maintenant, est en lui, il est notre Père. L'Esprit nous pousse à adorer Dieu sincèrement, Jean 4, 24. L'Esprit renouvelle notre intelligence. On peut le voir dans Romains 12, 1. L'Esprit produit en nous la motivation de tout faire pour plaire à Dieu. Romains 8, 5. Et puisqu'on a un accès total à ces ressources, on pourrait se dire que tout est accompli. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 6, versets 1 et 2. Que dire maintenant? Persisterons-nous donc dans le péché pour que la grâce abonde? Loin de là. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? C'est ce que Paul vient nous dire dans ses textes. C'est ce que Paul vient confronter dans ses textes. Il veut confronter celui qui court comme moi, qui a tendance à courir par ses propres forces, un 100 mètres de temps en temps, qui finalement relâche ses bras, se sent découragé, dit qu'il est chrétien, continue de demeurer comme un chrétien, de nom, mais dans son cœur n'a pas la puissance, ne réalise pas la puissance qui est rattachée à son salut, ne réalise pas l'identité qui lui est donnée, ne réalise pas qu'il est en train d'habiter dans la maison de Dieu, que Dieu lui a donné les clés de sa maison, ne réalise pas que Dieu lui a donné toutes les ressources, finit juste par courir par lui-même puis s'essouffler. Il faut qu'on aille plus loin. Je veux revenir sur l'histoire de la course. Je vous en ai parlé tout au début. Je vous ai dit, mon message est vraiment tout simple. Il y a 6 ans en arrière, il y a un mythe qui dit que tous les jeunes hommes mariés commencent à prendre du ventre. Moi, il y a 6 ans en arrière, c'est l'inverse qui s'est passé. Parce que, ayant été sportif plus jeune, ça faisait 4 ans que j'avais arrêté le sport. Je me suis marié il y a 6 ans. Puis à ce moment-là, prenant le rythme, maison, marié, tout va bien, tout est génial. On est à la maison. J'avais envie de faire du sport. Donc, je me suis dit, je vais courir. C'est gratuit. Pas besoin d'abonnement, pas besoin de forfait nulle part. Il fait beau. On court. Sauf que dans ma tête, compétitif ou borné, dépendamment comment on le voit, dans ma tête, je me suis dit, je vais courir pour un marathon. Donc, j'ai commencé à m'entraîner. Je regarde sur Internet, je commence à checker sur Internet comment s'entraîne un marathonien, comment s'entraîne un coureur. Puis finalement, j'y vais. Je commence à courir des 5, des 6, des 7, des 8, des 10 km. Sauf que j'avais oublié que plus jeune, j'ai une opération d'une jambe qui m'interdit de courir comme ça. J'ai couru à ma manière. Donc, tout allait bien, là. L'entraînement, je mangeais différemment, je ne pensais plus qu'à mon marathon, je ne pensais plus qu'à ma course. Je voulais faire un demi-marathon en passant au début. Je me suis dit, compétitif, mais pas trop quand même. Je ne pensais plus qu'à mon marathon, je ne pensais plus qu'à courir. Je faisais ça, j'y allais tous les jours, même fatigué, parce qu'à ce moment-là, j'étais paysagiste, je travaillais 45 heures par semaine. Je rentrais, je courais. Je cours comme ça pendant 1 mois, 2 mois, jusqu'au moment où je commence à avoir des douleurs atroces dans ma jambe. Je dois voir un médecin qui me dit « t'as développé une tendinite chronique, mon ami. Oublie la course. » Je courais à ma manière. Je me faisais des séries de courses, je me faisais des séries d'entraînements organisés. Je m'improvisais comme un spécialiste de la course. J'en parlais avec mes collègues. J'étais « pour courir un marathon, il faut que tu t'entraînes comme ça, il faut que tu manges ça, il faut que tu cours comme ça, il faut que tu fasses ça. » C'est des séries de 50 km. À la fin, tu verras, c'est facile, c'est génial. Tu cours en dormant, c'est génial. Littéralement, ce qui se passait, c'est que je courais de mes propres forces. Je courais à ma propre manière. Puis je veux vous demander ce matin, ça vous arrive de courir dans votre vie spirituelle à vous, de votre propre manière, de votre propre, avec vos propres ressources, de votre, avec notre savoir, avec ce qu'on a acquis, sans aller chercher auprès de Dieu ce que lui a pour nous. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a 6 ans en arrière, c'est exactement ça que j'ai fait. Puis, ce que le Seigneur veut nous enseigner ce matin, je le crois, c'est qu'il y a une bonne façon de courir aussi. Il y a une bonne manière de courir. Et il y a 3 étapes pour atteindre cette manière de courir. Quotidienne, les étapes. La loi nous amène à tomber sur nos genoux devant Dieu, réaliser qu'on a besoin de lui. Quand on vient devant lui, c'est sûr que si on s'arrête à juste un post Facebook, puis on voit « Le Seigneur est avec moi aujourd'hui, je ne manquerai de rien », on s'arrête là-dessus, on remercie Dieu, on est béni par ça. Mais si on s'arrête, si notre vie spirituelle s'arrête à ça, on ne tombera jamais sur nos genoux devant lui. On ne sera jamais émerveillé par ce qu'il a fait. On ne sera jamais challengé par ce que lui nous demande. On ne sera jamais confronté dans notre vie. Mais si on vient devant lui, honnêtement, si on vient chercher dans sa parole ce que lui a à nous offrir, c'est inévitable. Son esprit va agir en nous. Peu à peu, son esprit va s'implanter en nous, s'imprégner complètement de toutes nos cellules. C'est littéralement ça qui se fait. Et il y a une mauvaise manière de courir par nos propres forces, mais il y a une bonne manière de courir. Tomber sur nos genoux, réaliser ce que Jésus a fait pour nous, réaliser toutes les ressources qui sont attachées à son sacrifice. La maison est à nous, le chéquier est à nous, les ressources sont à nous, tout est à nous, nous avons le nom de Dieu inscrit sur nos cœurs. Quand on réalise ça, le Saint-Esprit prend place en nous, il prend sa place, il commence à se manifester en nous, dans tous les aspects, toutes les sphères de nos vies. Puis c'est ça que moi je veux, là, depuis plus d'une semaine, depuis que je pense à ce message, depuis que je travaille sur ce message, je suis comme confronté à chaque jour, Seigneur, plus de toi, il y a plus de toi, il y a plus, et je veux plus, je veux courir vers le but, moi. Et je sais que je ne peux pas courir par mes propres forces. Je l'ai fait, je le confesse devant vous, je l'ai fait très souvent. Et je le fais, je suis encore confronté à ce choix chaque jour. Est-ce que je vais courir par mes propres forces ou est-ce que je vais courir avec Dieu, à sa manière? Donc, il y a vraiment des similitudes entre un marathon, mais là, je parle plus qu'un marathon lorsque je parle d'un 100 mètres, mais lorsque je parle d'une course d'endurance, c'est plus qu'un marathon avec Dieu. Je parle d'une course type Serge Girard. L'avantage d'une course, un sprint, C'est qu'on n'a pas besoin de préparation. Si on veut être un pro, oui. Mais si on devait s'improviser coureur de 100 mètres, on pourrait y aller comme ça. On aurait des courbatures le lendemain, on serait malade peut-être, dépendamment de notre condition physique. Mais on peut le faire. On peut le faire. Si c'est nécessaire, on pourrait le faire. Par contre, une course, un marathon et plus, demande un exercice particulier, demande un engagement total, demande une alimentation particulière, demande un entraîneur peut-être pour ne pas s'improviser comme moi je l'ai fait, coureur professionnel, demande littéralement que ça prenne toute votre pensée, tout votre esprit. On parle de la vie du croyant, c'est littéralement ça qui est en train de s'implanter en nous lorsqu'on réalise que c'est une course d'endurance que nous avons devant nous. On commence à prendre les devants à ce propos-là. On commence à réaliser qu'on a besoin de lui, réaliser qu'on a besoin de s'entraîner, réaliser qu'on a besoin de s'attacher plus profondément à lui, tout simplement. Serge Girard m'impressionne, ce gars. Pour de vrai, je suis tombé sur lui sur Internet, là, puis j'étais comme l'illustration parfaite. Serge Girard a couru Los Angeles, New York. Il a commencé à courir à l'âge de 30 ans, cet homme. C'est pas un croyant, je crois pas, mais il a commencé à courir à l'âge de 30 ans, il s'est dit, je vais courir. Tout ce qu'il fait, vous pouvez le suivre sur Internet, le Tour du Monde, il est en train de le faire en direct, vous pouvez le suivre à chaque étape, si vous voulez. Mais il s'est dit, je vais courir, puis je vais offrir la visibilité que j'ai par rapport à mes courses à des associations, à des œuvres, à des œuvres caritatives et tout ça. Puis cet homme est impressionnant, 90 km de course par jour, ça demande un engagement total, ça demande un entraînement particulier. Ça demande une alimentation particulière. Ça demande des temps de repos maximisés. Il le dit lui-même, je commence à courir le dimanche, je vais courir jusqu'au dimanche, je ne prendrai pas de repos. Et du prochain dimanche, et ainsi de suite, jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, il s'arrête la nuit pour dormir quelques heures et il repart le matin très tôt. Puis c'est comme ça, ses journées. Et là, c'est ça qu'il fait. Il a fait les 5 continents séparément. L'Amérique, et ainsi de suite. Il a commencé par l'Amérique. Et quelques chiffres, Los Angeles, New York, c'est 4597 km. 53 jours à raison de à peu près 90 km en moyenne par jour. Si cet homme-là peut le faire physiquement, je crois que nous, on peut le faire spirituellement. Je crois que nous, on est appelés à courir de cette manière-là spirituellement. Sans relâche, mais de la bonne manière. Réaliser que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, qui nous a donné sa puissance, qui nous a donné son esprit, que nous sommes plus seuls, que nous avons besoin de Dieu à chaque jour. Et c'est ça que je veux vous inviter à faire. C'est ça que le Seigneur veut nous inviter à faire. Je crois qu'il nous aime. Je crois qu'il nous aime vraiment profondément. Moi, je le réalisais quand la loi, lire sur la loi, et puis toutes les études que j'ai faites sur la loi, ne m'a pas amené à me sentir coupable ou à me sentir mal, m'a amené à me sentir incapable, à me sentir petit, à me sentir faible. M'a amené à plus d'humilité, m'a amené à me dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis littéralement tombé sur mes genoux, moi je vous le dis, ma femme et moi, quand on a lu ces textes, on était comme, Seigneur, aide-nous, Seigneur, aide-nous. Ça nous a amené, Seigneur, je réalise que ton esprit est en moi, remplis-moi, remplis-moi. Est-ce que vous le voulez ce matin? Est-ce que vous voulez plus? Je ne suis pas quelqu'un qui crie, mais est-ce que vous voulez plus? Je crie quand je suis fâché, pour vrai, mais pas autrement. Sérieux, est-ce que vous voulez plus? Moi, je crois que Dieu veut que ça résonne dans le cœur de certains ce matin. Est-ce que tu veux plus? Est-ce que tu veux marcher plus avec moi? Est-ce que tu veux voir cette liberté? La liberté est à notre portée, là. On n'est pas obligé de baisser les bras après une série de 100 mètres. On peut courir comme Serge Girard dans notre vie spirituelle. Mais est-ce que tu veux plus de mon esprit? Est-ce que vous voulez plus de son esprit dans vos vies? Est-ce que vous êtes prêt à tomber sur vos genoux, à réaliser qui il est? Et votre besoin de lui. C'est ça la vie chrétienne, c'est littéralement ça. C'est pas plus d'efforts, c'est pas plus serrer les dents, c'est pas plus courir. C'est juste ne pas s'arrêter de courir et courir de la bonne manière. Dans les temps où on laisse l'esprit nous remplir, où on vient lire la parole, moi je vous donne quelques exemples. Quand on vient lire la parole de Dieu, sincèrement, ce que vous allez faire, que vous allez lire Romains 6, 7, 8 cette semaine, vous allez scruter la parole, peut-être sortir un commentaire, peut-être permettre cellulaire, ordinateur, n'importe quoi, vous allez sortir un commentaire, lire la Bible, demander à Dieu d'ouvrir votre cœur, votre esprit à ce que vous lisez. Moi, je crois qu'il y en a plein qui le font ici. Mais quand vous allez le faire, le Saint-Esprit vient s'implanter en nous. Littéralement, c'est nos cellules spirituelle, si on veut, qui viennent se transformer de l'intérieur. On vient, on est renouvelé, et peu à peu, c'est ça marcher par l'esprit. Romains 8, 1 à 11 parle de celui qui marche par l'esprit. Marcher par l'esprit, c'est réaliser notre besoin de lui, notre besoin de tomber sur nos genoux devant lui, notre besoin de marcher avec lui. Mais c'est aussi réaliser qu'il est avec nous. À chaque moment, quand on vient le chercher, quand on lui laisse davantage de place, il vient nous transformer, il vient nous libérer. Ce matin, moi j'arrive à la fin, je vais appeler mes amis les musiciens, mais j'aimerais qu'on puisse réaliser quelque chose. Dieu nous aime réellement, Dieu nous aime réellement, profondément. Quand il m'a appelé, quand il est venu me transformer, moi je ne comprenais pas qu'il fallait gérer la liberté. J'ai juste vu des changements radicaux qui, peu à peu, après quelques mois, c'est comme il n'y avait plus, j'avais plus cette puissance-là, j'avais plus qui m'a transformé à un moment donné. Et grâce à lui, année après année, à travers des expériences, à travers des tempêtes, un peu comme Serge Girard lorsqu'il a traversé les États-Unis, traversé des déserts, a traversé des tempêtes, a traversé, s'est trouvé face à des montagnes, s'est trouvé face à des obstacles infranchissables parfois, s'est trouvé peut-être blessé, a dû apprendre à courir blessé. Grâce à Dieu, j'ai réalisé que j'avais besoin d'apprendre à gérer cette liberté. J'avais besoin d'apprendre à marcher, à courir de la bonne manière. Et peu à peu, lorsque j'ai appris à le faire, j'ai redécouvert cette même puissance que j'avais comme reçue à ma conversion. Saint-Esprit agit en moi, Saint-Esprit agit en nous. Et c'est ça qui fait, c'est ça que je veux vous inviter à faire. Si ce matin vous le réalisez, on va chanter Majesté. Mais pendant qu'on chante ce chant, je veux vraiment vous demander, dans une attitude de recueillement, qu'on puisse prendre cet engagement peut-être. Peut-être qu'on a baissé les bras, peut-être qu'on réalise plus la puissance de Dieu qu'on a à disposition. Peut-être qu'on le découvre ce matin. Peut-être que pour vous, c'est la première fois que vous entendez, je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas qui vous êtes, mais peut-être que c'est pour vous la première fois que vous entendez parler de la grâce de Dieu, de qui est Jésus. Si c'est la première fois, Jésus vous aime, Dieu vous aime, puis il veut vous donner cette même puissance, même accès à toutes ces ressources, mais si vous le saviez, puis vous l'avez peut-être oublié, laissé de côté pour un moment, ou bien à force de courir puis d'être essoufflé, vous n'êtes plus vraiment plus apte à courir, peut-être, fatigué, les bras baissés. J'aimerais vous dire de la part de Dieu qu'il y a plus, il y a une puissance qui est disponible pour nous. Mon message est simple ce matin, et puis je me préparais dans la prière et je crois profondément qu'il y a plus, il y a plus. Dieu veut répandre son esprit en nous, mais Dieu veut amener un réveil au milieu de vous, au milieu de nous, dans ma vie. Dieu veut amener un réveil dans ma vie pour que je puisse répandre ce feu en moi, que ça puisse grandir, que ça puisse se manifester à chaque moment, à chaque instant dans nos vies. À chaque moment, moi je l'aspire, je le veux. Je veux changer radicalement pour ma vie encore. Je veux plus laisser la possibilité à ma femme de penser que je suis borné. Je veux devenir humble tous les jours à chaque moment parce que je suis borné. Je veux plus laisser mon caractère humain prendre le dessus. Je veux laisser l'esprit prendre le dessus. J'y aspire, je suis encore sur la course et vous aussi. Est-ce que vous aspirez à la même chose? L'Esprit de Dieu est là ce matin, puis je crois. On va prendre ce chant Majesté, on va pouvoir se lever ensemble, chanter, mais réalisons, demandons-lui, je veux plus, je veux plus, je veux plus. Remplis-moi, Seigneur, je veux plus, je veux que tu me remplisses, que tu manifestes en moi. Seigneur, je te demande de faire descendre ton esprit. Ce matin, tu es au milieu de nous, Seigneur, tu es au milieu de nous. Que tous ceux qui prennent cet engagement ce matin, qui réalisent que la loi leur fait, tout simplement les fait tomber sur leurs genoux devant toi. Et tu puisses aussi leur permettre de réaliser que par ta mort et ta résurrection, tu nous relèves, mais tu nous donnes toutes les ressources. Ton esprit habite en nous, tu vis avec nous quotidiennement, et tu nous invites à courir de la bonne manière. Seigneur, manifeste-toi, remplis nos cœurs, remplis-nous de ta vie, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de cet esprit de puissance qui vient de toi, Seigneur. Que les chaînes, Seigneur, que tu puisses attester dans les cœurs que les chaînes sont brisées et que lorsque l'ennemi parle à nos oreilles parfois pour nous rappeler que nous sommes liés, ce n'est plus qu'un mensonge. La chaîne est ouverte, la chaîne est brisée, la chaîne n'existe plus. Seigneur, tu l'as fait pour nous. Que ce matin, des personnes puissent le réaliser, que nos cœurs puissent le réaliser, mais que ce ne soit pas juste ce matin, que ce soit permanent, que ce soit un moment permanent dans nos vies quotidiennes. Tu nous permets de réaliser ça, Seigneur, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Qu'on puisse se lever, chantons ce chant-là.
Alléluia.
Être plein d'indignité.
Merci.
Et par la foi justifié.
Voici devant toi.
Me voici. Ébloui devant ta face. Libre par le don.
Le pasteur Michael parlait, ce qui me venait à cœur au travers de Romains 6, 7, 8, ce qui me venait à cœur au travers de tout ce qu'il disait, je voyais des gens qui faisaient cette course comme Serge. Tu es dans cette course et peut-être tu veux un enfant. Tu sais, quand tu veux un enfant, tu n'arrives pas à l'avoir. On te dit de continuer à croire, on te dit de continuer à prier. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas d'acclamations. Tu es seul et tu es devant un mur. Tu as montré des gens, tu as des circonstances difficiles présentement dans ta maison. Et tu es face à la loi en soi, la réalité. Et ta réalité, ça va pas. Mais ta réalité t'emmène aux genoux. Puis maintenant, à tes genoux, tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Quelque chose. Certains d'entre nous ici, c'est pour des enfants. T'as un enfant qui a commencé à consomme. T'as un enfant qui a des défis de comportement. Il n'y a rien qui peut t'aider. Il n'y a rien. Tu es face à la réalité qu'il n'y a rien. Il n'y a rien autour de toi. Il n'y a aucune ressource. Mais Dieu te dit au travers de ce message qu'il y a plus. Il y a plus. Il y a plus. Ce n'est pas l'émotion que tu as à l'intérieur de toi, c'est le Dieu que tu as. Ce n'est pas le sentiment que tu peux avoir. Ce n'est pas l'atmosphère que tu peux avoir. C'est le Dieu que tu as. Et il est assis sur son trône, quelles que soient les circonstances, et il cherche juste un moyen de se manifester dans ta vie. Et ce moyen, ça s'appelle la foi. Il y a un lieu. Il y a un refuge. Il y a un lieu où est-ce que je peux pleurer, où est-ce que tu peux pleurer de manière ouverte et dire, Seigneur, augmente ma foi. Seigneur, je veux plus dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin d'une réponse. Et tu es ici ce matin. Je veux juste que tu prennes ces quelques minutes, oublie ton voisin. Oublie ta voisine, oublie qu'il y a même quelqu'un autour de toi et devant le roi. Proclamons encore une fois, Majesté.
Venez d'écouter un message provenant de l'Église Nouvel Espoir située au 2224 rue Inès à Ottawa au Canada. Notre code postal est le 41B4C4. Vous pouvez accéder gratuitement à nos messages par le biais de notre site web www.eglisenouvelespoir.com. Si vous avez des témoignages de vie transformée au travers de ce ministère, écrivez-nous à transformation@eglisenouvelespoir.com ou vous pouvez nous joindre au 613-909-7274.